Chapitre 13. J'avais toujours compris que Miss Galindo s'était trouvée jadis dans une position de fortune plus brillante que celle où je la voyais alors. Comme vous le pensez bien, je n'osais pas lui faire de questions à cet égard. Mais à l'époque où nous sommes arrivés, j'appris relativement à sa jeunesse différentes choses que je vais vous raconter, non pas dans l'ordre où elles vinrent à ma connaissance, mais dans celui où les faits se sont passés. Le père de Miss Galindo, ecclésiastique du Westmoreland, avait pour frère aîné un baronnet dont le titre de noblesse remontait au règne de Jacques Ier. Cet oncle de notre vieille fille était l'un de ces originaux qui vit naître le commencement du XVIIIe siècle dans cette partie de l'Angleterre. Je n'ai jamais beaucoup entendu parler de lui. La seule chose qu'on m'ait dite sur son compte, chose d'ailleurs assez grave, c'est que très jeune encore, il avait quitté sa famille pour aller vivre on ne savait dans quel pays, car il n'était pas revenu du voyage qu'il avait fait sur le continent. À sa sortie d'Oxford, voyage que la mode exigeait à cette époque de tous les fils de famille. Il avait bien écrit plusieurs fois à son frère, mais ses lettres arrivaient à celui-ci par l'entremise de Monsieur Graham, banquier du baronnet, qui se trouvait dans l'obligation de cacher à tout le monde le nom de la résidence de leurs clients sous peine de se voir enlever la confiance et les affaires du gentilhomme. Le baronnet faisait à l'ecclésiastique une rente dont l'échéance était loin d'être régulière, et qui cependant paraissait avoir été annuelle dans l'intention du donateur. Néanmoins, comme cette intention n'avait jamais été formulée, soit par écrit soit en parole, il était impossible de compter sur la durée des subsides qu'envoyait le baronnet, bien qu'on fût obligé, pour se conformer à ses désirs, d'habiter l'ancien manoir patrimonial dont l'entretien absorbait la plus grande partie des revenus du pasteur. Maintes fois, celui-ci avait fait le projet de ne pas toucher à l'argent que lui donnait son frère, et de le mettre de côté pour former une dot à Laurentia, notre vieille fille Miss Galindo. Mais son revenu personnel, joint aux appointements d'un bénéfice, dont les dîmes allaient au baronnet, qui en était titulaire, ne lui permettait pas de réaliser cette intention. Comment trouver le moyen de faire des économies dans une vaste demeure où il était forcé d'entretenir des relations héréditaires avec des gens qu'il ne pouvait recevoir d'une façon moins honorable que ne l'avaient fait ses aïeux? Il y avait parmi les voisins du pasteur un monsieur Gibson, dont le fils était à peine plus âgé que Laurentia Galindo. Les deux familles étaient assez intimes pour se faire de fréquentes visites, et l'on s'accordait à dire que Mark Gibson était à la fois plein de cœur et d'élégance, en un mot, tout ce qu'il y a de plus séduisant aux yeux d'une jeune personne. Les parents, soit qu'ils eussent oublié que Mark et Laurentia n'étaient plus des enfants, soit qu'ils ne vissent aucun mal à ce que l'intimité du jeune homme et de la jeune fille se terminât par un mariage, laissèrent grandir l'affection que les deux jeunes gens éprouvaient l'un pour l'autre sans y apporter le moindre obstacle. Malgré cette latitude qui lui était donnée, Mark Gibson ne parlait pas des sentiments que lui inspirait Laurentia. Il était allé à Oxford, il en était revenu. Il chassait, il pêchait avec le pasteur et revenait avec lui au manoir partager le dîner de famille entre Laurentia et Mistress Galindo. Il paraissait heureux toutes les fois qu'il arrivait chez l'ecclésiastique, mais il gardait le silence sur ses projets d'avenir. Le temps s'écoulait ainsi, lorsqu'un jour M. Galindo reçut une lettre des messieurs Graham qui lui annonçait la mort du baronnet, décédé en Italie par suite de la malaria, et qui le félicitait, lui, Sir Hubert, de son événement au domaine et à la baronnie que le défunt laissait vacant. Le roi est mort, vive le roi, suivant la formule dont se servent les Français. Sir Hubert et sa femme ignoraient la maladie du gentilhomme. Leur surprise fut des plus grandes en apprenant sa mort. Ils se sentirent profondément choqués de la manière dont cette affreuse nouvelle leur était parvenue, et leur douleur fut des plus vives. Mais ils en éprouvèrent pas moins une joie réelle en pensant à la succession qui leur était laissée. Les messieurs Graham avaient parfaitement géré les affaires du défunt. Ils tenaient une somme très ronde au service de Sir Hubert, à moins que celui-ci ne préférât toucher seulement l'intérêt du capital. Bref, l'héritage s'élevait à 200 000 francs de rente, et Laurentia était l'unique héritière de cette immense fortune. Lady Galindo, qui avait toujours été pauvre, se mit à rêver pour sa fille les plus beaux mariages de l'Empire britannique, et l'ambition de Sir Hubert ne fut pas moins grande que celle de sa femme. Ils partirent pour Londres, afin de renouveler leurs équipages, leurs toilettes et leurs ameublements. C'est alors qu'ils firent connaissance avec Lady Ludlow. je serais fort embarrassé de vous dire comment il se fait que Miss Laurentia plût à sa seigneurie. Cette dernière, qui faisait partie de l'ancienne noblesse, était calme et douce, pleine de grandeur et de majesté dans ses manières. Miss Galindo avait toujours dû être fort vive, même un peu brusque, et son énergie s'était toujours révélée d'une façon excentrique. Mais je n'ai pas la prétention de vous expliquer cette étrange anomalie. Je raconte les choses telles qu'elles se sont passées. Et le fait est que la comtesse élégante et difficile en matière de relations fut entraînée par la jeune provinciale qui, de son côté, adora Milady. Cette connaissance qui flattait leur vanité confirma Sir Robert et sa femme dans leurs vues ambitieuses. À quelle position leur fille ne pouvait-elle pas prétendre? Elle, qui devait avoir plus tard 200 000 francs de rente et qui se trouvait lancée parmi les comtes et les ducs de la plus ancienne origine. Il en résulta qu'après leur retour au manoir, ils refusèrent nettement les propositions de Mark Gibson, lorsque celui-ci vint offrir à Laurentia Galindo son cœur et sa main, appuyés de la perspective d'un revenu de 20 000 francs. « En vain, demanda-t-il qu'on lui permît de s'adresser à son ami d'enfance. On lui répondit qu'on le lui accorderait aussitôt que la jeune fille aurait été prévenue par ses parents du motif de la visite de Mark, c'est-à-dire quand ceux-ci auraient pris le temps de soumettre à Laurentia tous les arguments qui peuvent persuader à une fille laide, ayant conscience de sa laideur, que le soupirant qui la demande n'a pas songé à l'épouser tant qu'elle avait été pauvre, et que c'est de la cassette, non de la personne, que l'amoureux était pris. Dieu seul pourrait dire jusqu'à quel point cette supposition était fondée. Lady Ludlow avait toujours pensé qu'il y avait eu calcul de la part de Mark Gibson. Mais certains événements, dont elle eut connaissance à l'époque où Miss Bessie vint demeurer chez la vieille fille, parurent la faire changer d'opinion. Quoi qu'il en soit, la pauvre Laurentia refusa d'épouser Mark et se brisa le cœur en agissant ainsi. L'amoureux, consterné, découvrant les soupçons dont il avait fait l'objet, affirma que s'il n'avait pas avoué plus tôt son amour, c'est parce qu'étant l'aîné de 5 enfants, il avait dû cacher sa flamme jusqu'au moment où il pourrait gagner par son travail un revenu suffisant aux besoins d'un ménage. Il se destinait au barreau, et ce n'était pas sa faute si l'oncle de Laurentia était mort avant qu'il eût obtenu son diplôme d'avocat. Il avait toujours eu le projet d'épouser Miss Galindo. Son père, à lui, le savait bien, on pouvait le lui demander. Malheureusement, le vieux Gibson était connu pour adorer le veau d'or. Il était probable, disaient les Galindo, qu'autrefois, il avait empêché son fils de demander la main d'une pauvre fille qui lui faisait rechercher maintenant qu'elle était riche. Et le fils avait obéi à la défense, tout aussi bien qu'il le faisait actuellement aux sollicitations d'un père avide. Cette conclusion revint aux oreilles de Mark. Cette fois, le pauvre jeune homme se contenta de répondre qu'il était cruel d'être méconnu à ce point par la femme qu'il aimait. Puis il quitta le Westmoreland pour s'établir à Londres. Sir Robert et Lady Galindo furent enchantés d'être débarrassés de lui. Mais Laurentia ne se pardonna jamais d'avoir méconnu le pauvre Mark. Et les paroles qu'il avait dites en partant et qu'un ami lui avait rapportées ne cessèrent pas de retentir dans son cœur. L'année suivante, Laurentia fut conduite à Londres, où Sir Galindo et sa femme allèrent passer l'été. Mais elle ne voulut pas sortir dans la crainte de rencontrer le regard plein de reproches de Mark Gibson, et accablée de regrets, elle perdit la santé en même temps que l'espérance. Milady, frappée du triste changement qui s'était opéré chez la jeune fille, en apprit la cause par Lady Galindo, qui naturellement lui donna sa propre version de la conduite et des motifs de Mark. Sa seigneurie ne parla jamais de cette malheureuse affaire qu'elle fit semblant d'ignorer, mais elle redoubla d'affection et de prévenance pour la pauvre Laurentia et fit tout son possible pour lui être agréable. C'est alors que, cherchant à la distraire par des causeries pleines d'abandon, elle lui avait tant parlé de sa jeunesse et de l'endroit où elle était née que Miss Galindo résolut, si jamais c'était en son pouvoir, d'aller visiter les lieux que préférait son amie. Voilà comment, plus tard, je l'ai trouvée dans notre village où elle avait fixé sa résidence. Mais avant d'en arriver là, il s'était fait un grand changement dans la position de Miss Galindo. Son père et sa mère n'étaient pas de retour de la seconde visite qu'ils avaient faite à Londres qu'une lettre de leur procureur vint informer Sir Hubert de l'existence d'un fils légitime du baronnet et d'une Italienne, et par conséquent héritier direct des propriétés et du titre de Sir Galindo. Celui-ci, d'humeur aventureuse, avait toujours préféré les arts et la poésie aux jouissances que procurent le rang et la fortune. et captivé par la vie facile et indépendante qu'on mène en Italie, il avait épousé la fille d'un pêcheur napolitain. Bornant son ambition à jouir de son bonheur, il avait parcouru les rivages de la Méditerranée sans autre souci que d'être heureux, sans autre devoir que de veiller sur une famille dont l'avenir ne lui causait nulle inquiétude. Quant à sa femme, il lui suffisait de ne pas manquer d'argent et que son mari continuât à l'aimer. Elle détestait l'Angleterre, cette contrée brumeuse, hérétique et perverse, et avait grand soin d'éviter de faire allusion à tout ce qui se rattachait à la jeunesse du baronnet. Il en résulta qu'après la mort de celui-ci, elle se fâcha contre le docteur qui lui conseillait d'annoncer en Angleterre la mort de son mari. Non seulement elle ne voulut pas suivre l'avis qui lui était donné, mais craignant que les Anglais ne fondissent sur elle pour lui enlever ses enfants, elle emmena ces derniers dans les Abruzzes, où elle vécut du prix de quelques bijoux et resta cachée tant que dura son argent. Lorsqu'elle fut à bout de ressources, elle revint dans sa famille qu'elle n'avait pas visitée depuis son mariage. Son père était mort, mais elle retrouva son frère, dont l'intelligence ne manquait pas de finesse. Ce jeune homme alla consulter un prêtre qui finit par découvrir, en s'adressant à l'ambassade anglaise, que la succession du baronnet valait la peine d'être assurée à l'un des membres de la foi catholique. C'est en raison de cette découverte que Sir Hubert fut appelé à restituer à son neveu le titre et les terres de Sir Galindo, plus les fonds qu'il avait dépensés depuis la mort du baronnet. L'ancien ministre opposa un refus éloquent à cette réclamation. Il ne pouvait supporter l'idée que son frère avait épousé la fille d'un pêcheur, une italienne, une papiste, et il s'abandonnait au désespoir en songeant que la terre patrimoniale de ses ancêtres allait passer à un mécréant issu d'un tel mariage. Il combattit du bec et de l'ongle pour préserver d'une telle souillure la fortune et la baronnie des Galindo. Il y perdit la presque totalité de son avoir personnel et s'aliéna tous les membres de sa famille, car à l'exception de sa femme, tout le monde était convaincu du bon droit de ses neveux. À la fin, bien obligé de céder, il résigna son bénéfice et quitta la demeure de ses pères avec un sombre désespoir. Il aurait volontiers changé de nom pour qu'il n'existât rien de commun entre lui et ses enfants matinés que son frère avait eus d'une italienne. Celle-ci n'en vint pas moins avec son fils le baronnet et toute sa nichée de papistes prendre possession du manoir où elle passa l'hiver et d'où elle partit avec une joie pour retourner à Naples. L'ex-baronnet, pendant ce temps-là, vivait à Londres, où il avait obtenu un vicariat dans l'une des paroisses de la cité. Combien sa femme et lui auraient été heureux à cette époque si Mark Gibson avait renouvelé sa demande. Il n'en fit rien, hélas, et M. et Mme Galindo virent dans son silence la confirmation des calculs odieux qu'il lui avait attribués. J'ignore ce que leur fille en pensait, mais elle ne souffrait pas que, devant elle, on parlât mal de son ancien ami d'enfance. Mark savait assurément que les Galindo habitaient Londres. Son père avait dû le lui dire. Il était d'ailleurs impossible qu'il n'eût pas connaissance des sermons que le vicaire de la cité prêchait dans d'autres paroisses à la demande de certains ministres et dont l'annonce était répandue partout. Durant toute cette époque de misère, Lady Ludlow conserva ses relations avec la famille du pasteur par amour pour la pauvre Laurentia. Et quand celle-ci eut perdu son père et sa mère, ce fut Milady qui soutint l'orpheline dans la détermination de ne rien demander au baronnet papiste et de se suffire avec les 2 500 francs de rente qui lui venaient de son aïeul. Mark Gibson avait acquis, en peu de temps, une certaine réputation comme avocat. Puis il était mort du vivant même de son père, victime, disait-on, d'une intempérance habituelle et ne s'étant pas marié. Le docteur Trevor, celui qui avait soigné Henry Gregson et M. Gray, avait épousé la sœur de Mark. C'est là tout ce que savait Lady Ludlow sur la famille Gibson, et rien de tout cela ne nous apprenait ce que Bessie pouvait être. Ce mystère, néanmoins, se découvrit avec le temps. 12 ans, à peu près, avant mon arrivée au château de Milady, Miss Galindo avait fait un voyage à Warwick au sujet de diverses emplettes qu'on ne peut faire en général que dans un chef-lieu de comté. C'est dans cette ville que demeurait Madame Trevor. Je ne crois pas que la femme du docteur ait jamais su le désir que son frère avait eu d'épouser Miss Galindo. Elle était enfant à l'époque où la demande avait été faite, et, en cas de refus, il est rare que l'on parle de ce genre d'affaires dans la famille du jeune éconduit. Mais les Gibson et les Galindo avaient été voisins de campagne, et s'étaient connus trop longtemps pour que les membres des deux familles qui se rencontraient loin du pays natal ne se fissent pas un plaisir de renouer entre eux les relations qui avaient uni leurs parents. C'était donc chez le docteur Trevor que Miss Galindo faisait porter ses paquets lorsqu'elle allait faire ses achats à Warwick, et lorsque par hasard elle sortait du comté, c'était chez Madame Trevor qu'elle allait attendre l'arrivée de la diligence qui devait la prendre au passage. Elle avait son couvert mis à la table du docteur, comme si elle eût été de la famille, et c'était la sœur de Mark Gibson qui gérait pour elle ses affaires du bazar. Un jour, Miss Galindo se trouvait chez le docteur, où elle se reposait en attendant qu'on se mît à table. Monsieur Trevor était parti pour sa tournée du matin avant l'arrivée du courrier. Il se fit attendre assez longtemps, et Miss Galindo, Madame Trevor et ses 8 enfants étaient en train de dîner lorsqu'il rentra, la figure tout émue. Il renvoya les bambins aussitôt que la chose fut possible, et fit part à sa femme de la mort de son frère. Mark Gibson avait été pris d'une indisposition subite en se rendant à son cabinet. Il s'était pressé de l'atteindre, et n'y était arrivé que pour mourir. Madame Trevor accueillit cette nouvelle avec des sanglots effrayants, mais le docteur, ainsi qu'il le dit plus tard, n'observa pas que Miss Galindo s'intéressa beaucoup à la chose. Elle prodigua ses soins à la pauvre affligée, ne la quitta pas de la soirée au lieu de revenir à Hanbury, et resta auprès d'elle pendant plusieurs jours, tandis que le docteur allait aux funérailles. Plus tard, lorsqu'ils apprirent l'ancien amour que le défunt et Miss Galindo avaient eu l'un pour l'autre, histoire que leur racontèrent des amis communs dans cette revue qu'on fait en général de la vie d'un homme qui vient de mourir, ils cherchèrent comment s'était comportée la pauvre Laurentia pendant le séjour qu'elle avait fait chez eux, à l'occasion des obsèques de Marc. Elle avait été plus pâle, plus silencieuse qu'à l'ordinaire. On lui avait vu le nez rouge et les paupières gonflées, mais elle était à un âge où l'on attribue de pareils symptômes à un rhume de cerveau un peu grave plutôt qu'à un motif sentimental. Le docteur et sa femme avaient pour elle l'espèce d'affection qu'on accorde à une vieille fille excentrique, obligeante et dévouée, que l'on connaît depuis longtemps. Elle n'en demandait pas davantage et ne faisait rien pour leur rappeler que jadis elle avait pu avoir d'autres espérances et des sentiments plus jeunes. Lorsqu'il revint des funérailles de ce beau-frère, le docteur remercia chaudement la vieille miss des bontés qu'elle avait eues pour sa femme et la priant de rester avec eux au moment où, par discrétion, elle se disposait à s'éloigner. Il raconta les tristes particularités de son voyage. Marc a laissé un enfant, une petite fille, dit-il, après avoir fait une assez longue pause.
Mais il n'était pas marié, s'écria Madame Trevor.
Une petite fille dont je suppose que la mère est morte, continua le docteur. J'ai trouvé l'enfant dans la maison avec une vieille bonne qui paraissait chargée de toutes les affaires du ménage et qui a terriblement volé ce pauvre Marc. La chose est facile à comprendre.
Mais l'enfant, interrompit Madame Trevor, qui ne revenait pas de sa surprise. « Comment savez-vous que c'est la fille de mon frère ?»«
La bonne me l'a dit, et s'est fort indignée des doutes que j'osais manifester à cet égard. J'ai demandé à la pauvre petite comment elle se nommait.
« Je m'appelle Bessie, je voudrais voir papa, »
m'a-t-elle répondu en pleurant. Tout ce que j'ai pu savoir de la vieille femme, c'est qu'elle avait été gagée pour élever cet enfant que M. Gibson appelait sa fille. Plusieurs amis de votre frère, que j'ai eu l'occasion de voir, m'ont dit la même chose, et ne doutez pas que M. Gibson ne fût le père de Bessie.
« Et qu'en ferons-nous ? » demanda Mme Trevor.
« Je n'en sais rien, » répondit le docteur. « Marc a laissé tout au plus de quoi payer ses dettes, et votre père ne viendra certainement pas au secours de la pauvre petite. »
Quelques instants après, Mme Trevor se retira dans sa chambre, et le docteur alla dans son cabinet. Il y était depuis quelque temps lorsque Miss Galindo vint frapper à sa porte. Ils eurent ensemble une longue conversation dont le résultat fut que la vieille fille et le docteur partirent le lendemain pour Londres, qu'ils ramenèrent la petite Bessie et la placèrent dans une ferme aux environs de Warwick. La vieille fille s'engageait à payer la moitié de la dépense et à entretenir l'orpheline, tandis que le docteur promettait de faire payer le reste par la famille Gibson ou de s'en charger lui-même si les autres s'y refusaient. Miss Galindo aimait peu les enfants, et il y avait plus d'un motif pour qu'il lui répugnât d'amener chez elle la fille de Mark Gibson. Lady Ludlow ne souffrait pas qu'on parlât en sa présence d'un enfant illégitime. C'était l'un de ses principes, que la société ne devait pas même savoir qu'un bâtard existait. Et je crois que Miss Galindo avait toujours été du même avis, jusqu'au jour où la question s'était posée dans son cœur. La vieille fille n'avait donc pas le courage de prendre avec elle l'enfant d'une étrangère qui avait fait la honte de son sexe. Mais elle se rendait souvent à Warwick pour visiter Bessie. Elle travaillait pour l'orpheline bien longtemps après l'heure où chacun la croyait dans son lit. Et quand vint l'époque où il fallut mettre la petite fille en pension, Miss Galindo travailla plus que jamais pour subvenir aux dépenses qui s'accroissaient de jour en jour. La famille Gibson avait d'abord payé sa part, bien que de fort mauvaise grâce, puis elle avait rompu ses engagements et toute la charge retombait sur le docteur Trevor, qui la trouvait bien lourde avec ses 12 enfants. Aussi, la vieille fille avait-elle fini par prendre à elle seule la presque totalité du fardeau. Il est difficile de consacrer à quelqu'un tous ses efforts, toutes ses pensées, de lui sacrifier son temps et son avoir sans finir par l'aimer. Laurentia aima donc de tout son cœur la fille de Mark, et l'enfant donna son affection à la vieille miss à qui elle devait tout, depuis la nourriture quotidienne jusqu'aux menus plaisirs et aux caresses qui la rendaient heureuse. Je suis sûr aujourd'hui que Miss Galindo avait plus d'une fois aspiré au moment où Bessie viendrait demeurer chez elle. Néanmoins, tant qu'elle put suffire à payer la pension de la jeune fille, elle n'avait pas osé faire venir l'orpheline, sachant bien l'effet douloureux que produirait sur Milady cette mesure audacieuse. Mais Bessie était maintenant dans sa 19e année. Elle avait atteint l'âge où d'ordinaire on est sorti de pension, et comme à cette époque, il y avait peu de familles où l'on prit des institutrices, comme en outre Bessie n'avait aucun état qui pût lui faire gagner son pain, je ne vois pas trop ce qu'elle aurait pu devenir si la vieille fille ne l'avait prise chez elle. D'autant plus qu'avec la meilleure volonté du monde, il était impossible à Miss Galindo de continuer à payer la pension depuis qu'étant devenue commis de M. Horner, elle avait dû renoncer aux bénéfices qu'elle tirait de son aiguille. Peut-être n'était-elle pas fâchée d'être contrainte par la force des choses à prendre le parti désespéré qui répondait à ses vœux. Toujours est-il que, d'une façon ou d'une autre, Miss Bessie vint habiter le village peu de temps après que le capitaine James eut rendu à Miss Galindo la liberté de surveiller sa maison et de s'occuper de ses propres affaires. Quant à moi, il se passa fort longtemps avant que j'apprisse quelque chose sur la nouvelle arrivée. Lady Ludlow ne paraissait pas même se douter qu'il y eût une personne de plus dans la paroisse. Elle ne voyait et n'entendait rien à l'égard des gens qui n'avaient pas le droit légal d'exister. Et si Miss Galindo avait eu l'espérance de lui voir faire une exception en faveur de sa protégée, elle avait fait une singulière méprise. Milady écrivit un jour à la vieille fille pour la prier de venir prendre le thé au château, ainsi qu'elle avait coutume de le faire de temps à autre. Miss Galindo répondit qu'elle avait un gros rhume qui l'empêchait de sortir. La prochaine fois qu'elle fut invitée, c'était un engagement qui la retenait chez elle. Puis, enfin, elle avoua qu'une jeune amie était venue partager sa solitude et qu'il lui était matériellement impossible de la quitter. Sa seigneurie accepta, sans mot dire, toutes les défaites qui lui étaient données, mais elle n'en souffrait pas moins de ne plus voir la vieille fille qui nous manquait également. À l'époque où Miss Galindo remplissait les fonctions de commis, elle trouvait toujours le moyen, quand sa besogne était faite, de venir causer un instant avec l'une ou l'autre de mes compagnes, et surtout avec moi. Or, il faut vous dire que, soit à cause de mon infirmité, soit tendance naturelle, j'avais un goût particulier pour les cancans du village. Nous n'avions plus M. Horner, qui de temps à autre venait avec gravité nous faire part des nouvelles importantes qui circulaient dans la commune, et je vous laisse à penser combien je regrettais la conversation de la vieille fille. Milady n'en parlait pas, mais je suis sûr qu'au fond du cœur elle éprouvait le besoin d'entendre jaser Miss Galindo, qui semblait perdue pour nous depuis l'arrivée de Bessie. Le capitaine James pouvait avoir des qualités précieuses. Il lui était cependant impossible de remplacer les vieux amis. C'était un franc marin, tel que les marins étaient à cette époque. Il mettait de la promptitude et du cœur dans les moindres choses, mais il jurait souvent, buvait sec, bien qu'il n'y parût jamais, et n'ayant pas l'habitude de vivre avec les femmes, ainsi que le disait Lady Ludlow, il jugeait avec précipitation et n'acceptait pas les conseils qui lui étaient donnés. Sa seigneurie avait espéré que le nouveau régisseur ne ferait rien sans avoir pris ses ordres, ou tout au moins sans l'avoir consulté. Mais le capitaine s'était posé tout d'abord en agent responsable de l'administration de la terre qu'on l'appelait à régir, et par conséquent voulait avoir toute liberté d'action. Il avait commandé trop longtemps à des hommes pour se laisser conduire par une femme, alors même que cette femme était Lady Ludlow. Je suppose que c'était l'un des traits de ce rare bon sens dont sa seigneurie nous avait fait l'éloge. Toutefois, quand le sens commun nous désapprouve et lutte avec succès contre notre manière de voir, je ne crois pas que nous sachions l'apprécier à sa juste valeur. Lady Ludlow était fière de sa capacité administrative. Elle aimait à nous dire que son père avait l'habitude de l'emmener dans les courses à cheval qu'il faisait sur ses domaines, que le vieux comte ne manquait pas d'attirer les regards de sa fille sur les divers objets dont il était frappé, et lui recommandait surtout de ne jamais permettre qu'on fît telle ou telle chose. La première fois qu'on avait raconté cela au capitaine, celui-ci avait répondu à brûle-pourpoint que, d'après M. Smithson, les fermes étaient fort mal tenues, les paiements très arriérés, et qu'il avait l'intention d'étudier l'agriculture avec zèle afin de voir par quels moyens on pouvait remédier à tout cela. Milady fut très surprise en écoutant un pareil langage, mais qui pouvait-elle faire? Que dire à un homme qui parlait d'employer toute son énergie à triompher de son ignorance, le seul défaut qui lui eût été reproché par les personnes assez audacieuses pour en faire l'observation? Le capitaine s'était donc mis à lire avec ardeur les promenades agricoles d'Arthur Young, et hochait la tête d'un air peu satisfait chaque fois que Milady lui parlait du genre d'assolement qui, de temps immémorial, était suivi par ses fermiers. Lorsqu'il eut fini sa lecture, il en vint à la pratique, et se lança tout à coup dans une foule d'expériences. Lady Ludlow le regardait faire sans rien dire, mais tous les fermiers étaient en émoi, et lui prédisaient 100 échecs pour le moins. Il en eut bien 50, c'était la moitié de ce que redoutait sa seigneurie, et 10 fois plus que le nouvel agriculteur n'avait mis dans ses calculs. Celui-ci le confessa ouvertement, et regagna par sa franchise la popularité que lui avait fait perdre son désir d'innover. Les paysans, qui n'auraient pu comprendre les regrets silencieux d'un caractère plus digne, sympathisèrent avec l'homme qui s'attribuait, en jurant, le fâcheux résultat de sa méthode, et ils lui accordèrent leur estime et leur amitié tout en se gaudissant de sa mésaventure. Quant à M. Brooke, il ne cessait de blâmer le capitaine et de son ignorance en agriculture et de ses jurons blasphématoires. « Mais que peut-on attendre d'un marin ? » demandait-il, à portée des oreilles de Lady Ludlow, bien qu'il sût, comme tout le monde, que le capitaine avait été choisi par Milady. Je croirais volontiers que ce sont les paroles de l'ancien boulanger de Birmingham qui déterminèrent sa seigneurie à prendre le parti du capitaine et à le pousser à faire de nouvelles expériences. Elle ne pouvait pas reconnaître qu'elle avait fait un mauvais choix, surtout lorsque cet aveu lui était dicté, pour ainsi dire, par ce boulanger dissident, l'unique individu de la paroisse qui fut sorti en habit de couleur quand tout le monde portait le deuil du fils de Lady Ludlow. Le capitaine James aurait immédiatement sollicité son renvoi si Milady n'avait pris à tâche de se justifier elle-même en le priant instamment de conserver ses fonctions. Profondément touché de la confiance que sa seigneurie lui témoignait, il jura, par tout ce qu'il y a de plus sain et de plus terrible, que l'année suivante il ferait produire à la terre d'Unbury plus qu'elle n'avait jamais rapporté dans les années exceptionnelles dont on gardait le souvenir. Je ne sais pas s'il eut connaissance de l'opinion de M. Brooke au sujet de la capacité agricole des officiers de marine, mais le capitaine désirait trop vivement réussir dans sa nouvelle tentative, pour trouver au-dessous de lui d'aller demander à son habile voisin des conseils relatifs à la culture des terres. Si Miss Galindo était venue comme autrefois, nous aurions appris immédiatement la liaison du régisseur et de l'affreux boulanger. Mais en l'absence de la vieille Miss, il était impossible qu'on soupçonnât le capitaine, dont l'attachement à l'église et au roi était bien connu, de s'être lié avec un anabaptisme de Birmingham, alors même que l'intérêt de Milady en eût été le motif. C'est par M. Gray que cette nouvelle incroyable nous fut annoncée, car le jeune pasteur venait souvent au château. Soit que Milady se rappelât toujours que c'était lui qui avait été chargé de lui annoncer la mort du comte, soit que les arguments qu'il avait fait valoir eussent fini par l'ébranler, sa seigneurie avait permis à M. Gray d'établir son école. À vrai dire, elle avait soupiré plus d'une fois en y pensant, et je crois que les résultats de cette innovation lui donnaient plus d'inquiétude que d'espérance. Néanmoins, elle s'était prêtée de bonne grâce au désir de M. Gray, et l'on voyait maintenant auprès de l'église une maison rustique où les enfants du village étaient instruits par le pasteur. En échange de la concession qu'elle avait faite, Milady avait demandé avec instance qu'on apprît seulement à lire, à écrire, et les 4 premières règles aux petits garçons, tandis que l'éducation des filles se bornerait à la lecture. On leur enseignerait à compter de mémoire et surtout à raccommoder leurs vêtements, à tricoter et à filer. Elle pourvut l'école d'une quantité de rouées supérieure au nombre de petites filles que renfermait la commune, et posa comme règle fondamentale que les jeunes écolières devaient avoir filé tant d'échevaux de lin et fait tant de paires de bas avant qu'on leur apprît l'alphabet. Je me rappelle encore le jour où M. Gray tira de sa poche un beau peloton de fil d'une délicatesse et d'une égalité remarquables, ainsi qu'une paire de bas d'un tricot fin et moelleux qu'il plaça devant Lady Ludlow comme pour lui faire hommage des premiers fruits de son école. Je me souviens toujours de l'air avec lequel sa seigneurie mit ses lunettes et fit l'examen attentif de ces deux productions qu'elle finit par me passer, car j'étais bon juge en pareille matière.
« Je suis extrêmement satisfaite, » dit alors Milady. « Vous avez été bien heureux dans le choix de votre maîtresse d'école, Monsieur Gray. Il faut qu'elle réunisse à une grande habitude des travaux féminins, une patience exemplaire. Est-elle de notre village ?»«
Miss Bessie a la bonté de venir enseigner à mes petites filles toutes ces sortes de choses, » répondit Monsieur Gray d'une voix tremblante et en rougissant comme il faisait jadis. Milady le regarda par-dessus ses lunettes.
« Miss Bessie, » reprit-elle, en s'arrêtant comme pour chercher dans sa mémoire quelle était la personne qui portait ce nom dans la paroisse.
Je ne sais pas si M. Gray avait eu l'intention d'en dire davantage à l'égard de l'inconnu, toujours est-il que, troublé par le regard et la voix de Lady Ludlow, il changea de sujet et raconta qu'il avait cru de son devoir de refuser la souscription que lui avait offerte M. Brooke pour l'entretien de l'école. Néanmoins, il craignait, disait-il, d'avoir blessé le capitaine James qui avait servi d'intermédiaire aux dissidents, et il pensait que Milady voudrait bien faire comprendre au capitaine qu'il ne pouvait pas accepter l'argent d'un homme qui professait des opinions hétérodoxes, et qu'il soupçonnait même d'être infecté de l'hérésie de Dodwell.
« Il doit y avoir une méprise de votre part, ou j'aurais mal entendu, » répliqua sa seigneurie. « Le capitaine James ne peut pas être suffisamment lié avec un schismatique pour que celui-ci l'ait chargé de ses aumônes. Je suis même fort étonné que le capitaine connaisse un pareil individu.
Non seulement il le connaît, Milady, mais il est son ami intime. J'ai vu souvent le capitaine et M. Brooke se promener ensemble dans les champs, et l'on va même jusqu'à dire... »
Milady fixa sur M. Gray des yeux interrogateurs, et le jeune homme continua.
« Je désapprouve les commérages, » poursuivit-il. Et je ne crois pas que ce soit vrai, mais on prétend que le capitaine est très attentif auprès de Miss Brooke.
« C'est impossible, » répliqua sa seigneurie, d'un air indigné. « Le capitaine James est à la fois un homme religieux et un sujet fidèle. Vous me pardonnerez, Monsieur Gray, mais c'est totalement impossible. »